France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Vu le chemin parcouru, les femmes maltraitées en Espagne doivent beaucoup à la mémoire d'Ana Orentes. Parce que la tragédie qu'elle a vécue, ça a été le coup dont avait besoin la justice pour se rendre compte que ce qui se passait, ça ne pouvait plus arriver.
J'ai un dispositif de sécurité parce que lorsqu'il est sorti de prison, il continuait à me déranger. Si je n'avais pas le dispositif, j'aurais toujours peur dans la rue.
C'est très important que les mesures d'éloignement existent. Mais en même temps, en plus d'un suivi de la victime, on devrait également suivre l'agresseur.
Collectivement, nous ne sommes pas à la hauteur, constate la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. En 2018, 121 femmes sont mortes en France sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Depuis le début de cette année, elles sont au moins 116, selon un décompte de l'agence France Presse. Très clairement, ça ne va pas, commente la garde des Sceaux. La chaîne pénale n'est pas satisfaisante. Des réponses devraient être apportées lundi, journée nationale contre les violences faites aux femmes, jour également des conclusions du Grenelle des violences conjugales, grande concertation lancée le 3 septembre. À l'approche de cette échéance, associations et proches de victimes se mobilisent. Une marche nationale est organisée demain à Paris, avec également des rassemblements en région. Car si la France s'est dotée de nouveaux outils ces dernières années, comme l'ordonnance de protection ou le téléphone grave danger, il reste sous-utilisé. Pour passer à la vitesse supérieure, pourquoi ne pas faire comme l'Espagne ? Elle est souvent montrée en exemple depuis qu'en 2004, les députés espagnols ont voté, à l'unanimité, la loi de protection intégrale contre les violences de genre, une loi prévoyant notamment la spécialisation des tribunaux et le bracelet électronique anti-rapprochement. Pour renforcer encore ces mesures, un pacte d'État a été voté en 2017 avec un budget d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Contre les violences conjugales, l'Espagne à l'avant-garde, c'est un reportage signé Mayouen Bordron. Invitée de ce grand reportage, Isabelle Rome, bonjour.
Bonjour.
Haute fonctionnaire à l'égalité homme-femme au sein du ministère de la Justice, vous y coordonnez également la lutte contre les violences conjugales. Et puis Françoise Brié, la directrice de la Fondation nationale Solidarité Femmes, devrait nous rejoindre dans un instant. Mais d'abord, nous allons écouter votre reportage, Mayouen Bordron. Vous êtes donc allée en Espagne, où l'on a dénombré l'an dernier 50 féminicides. Quelle est la particularité de ce modèle espagnol en matière de lutte contre les violences conjugales ?
Eh bien, l'Espagne, en fait, a miser sur la spécialisation des acteurs tout au long de la prise en charge des victimes de violences conjugales. Les policiers, tout d'abord, que ce soit la police municipale, vous allez l'entendre dans le reportage, mais également la police nationale ou la Guardia Civil, l'équivalent de la gendarmerie française. Des unités dédiées à la lutte contre les violences conjugales existent dans tous les commissariats avec une sélection à l'entrée. Objectif, faciliter le dépôt de plainte, puis suivre et protéger au mieux les victimes. Une fois que la plainte est déposée, il faut que les procédures judiciaires aillent vite. La loi de 2004 en Espagne a créé des tribunaux spécialisés en violences conjugales. Il en existe 106, répartis un peu partout dans le pays, surtout dans les grandes villes. Les infractions mineures y sont jugées rapidement. Les délits passibles de peine de prison et les crimes sont traités par d'autres juridictions pénales, elles aussi spécialisées. Enfin, des tribunaux de garde ont été mis en place pour les affaires urgentes, quel que soit le jour de l'année. Des mesures judiciaires sont prises, les week-ends et les jours fériés inclus. Pour les affaires les plus simples, celles qui ne requièrent pas d'enquête préliminaire, un conjoint ou ex-conjoint violent peut ainsi être jugé 15 jours après l'agression.
Alors tout de suite, nous partons pour Madrid. Nous allons d'abord rencontrer Lorenzo. Il est membre de l'unité de protection des femmes de la police municipale de Madrid.
En García Tapia, te coges como si fuésemos al cementerio.
Il s'agit d'une victime avec 3 enfants mineurs. Elle a divorcé il y a 6 ans et depuis ce moment-là, il y a eu, disons, des petites disputes, des menaces et d'autres types de violences. Mais elle n'a jamais voulu porter plainte. Cette fois, elle s'est décidée parce qu'il est venu chez elle et qu'il a tenté de l'agresser. Cette victime bénéficie d'une mesure d'éloignement, de même que pour son fils, parce qu'au moment des faits, son fils de 17 ans était là et il a tenté de protéger sa mère afin que son père ne l'agresse pas. Le fils a lui-même été blessé, l'homme a essayé de lui planter des clés dans le corps. Enfin, il a fini par réussir à le faire. Là, ce que nous allons faire, c'est aller chez elle pour nous entretenir avec elle et voir comment le risque qu'elle court a évolué depuis qu'ont été prises des mesures judiciaires.
Sí, bueno, esta primera a la derecha.
Sí, la una.
¿Sí?
Nabila.
Comment ça va? Toujours aucune nouvelle?
Je sais qu'il est là.
Nous avons un petit problème en ce qui concerne la protection de Nabila. Parce que son ex-mari est introuvable. Le jugement a eu lieu, mais Nourdine, c'est comme ça qu'il s'appelle, ne s'est pas présenté et depuis, il est introuvable. Je lui ai donc parlé par téléphone pour lui notifier la décision judiciaire. Le juge a délivré une ordonnance de protection pour Nabila, mais aussi pour Crack, son fils de 17 ans. En Espagne, pour que ces mesures soient suivies des faits, il faut les notifier aux deux parties. Nourdine, lui, on n'a pas pu l'avertir. Donc le tribunal nous a missionné pour qu'on le localise et qu'on lui notifie les mesures. J'ai réussi à l'appeler par téléphone grâce à un numéro que Nabila m'a trouvé. Il a décroché et au moment où j'ai dit que j'étais policier et que je devais lui délivrer des documents du tribunal, en l'occurrence une ordonnance de protection, cette personne m'a raccroché au nez. Ce qui est bien, c'est qu'il sait que Nabila bénéficie d'une protection policière. Et depuis les faits, le 23 octobre, Nabila n'a plus eu de contact avec Nourdine. Tu te sens plus en sécurité, non, désormais avec notre unité?
Oui, c'est sûr, mais la peur est toujours là.
Oui, bien sûr, ça ne va pas partir comme ça.
Comme je te l'ai raconté la dernière fois, je m'occupe d'une personne âgée. Quand je sors, parfois je prends tel chemin, une autre fois je change, je ne passe jamais au même endroit.
Oui, tu dois faire aussi attention pour te protéger.
Oui, je le sais parfaitement, je ne compte plus les fois où il m'a dit qu'il allait m'étriper. Il me fait peur parce que lui, c'est du genre à me dire qu'il va me brûler le visage. Tu commences à devenir paranoïaque.
Mais Nabila, comme je te l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, nous sommes là pour te protéger. Pas seulement moi, personnellement, comme je travaille 8 heures et qu'une journée a 24 heures. Mais avec mes collègues, on est là pour t'aider pendant cette mesure de protection. Ok, il faut que tu te sentes en sécurité avec la police. Et que tu sois consciente qu'il est introuvable. Mais bon, que nous sommes là pour t'aider et te protéger. D'accord?
Retour au siège de la police municipale de Madrid, où est basée l'unité de protection des femmes. Lorenzo doit maintenant entrer toutes les informations obtenues lors de l'entretien dans un système de suivi et de protection des victimes. Un système qui permet de coordonner au niveau national le travail de la police contre les violences conjugales.
Donc sur l'écran d'ordinateur, l'outil informatique Biogen. Bio de violencia. Et violence de género, violence conjugale. Et en fait, c'est un outil informatique qui permet aux policiers d'entrer toutes les informations nécessaires sur l'ensemble des cas de violence conjugale.
Le numéro de Nabila, c'est celui-là. Cela s'appelle un ID pour identification. Si on introduit le numéro, on tombe sur la fiche principale avec les renseignements personnels de la victime et ceux de l'agresseur présumé. Le programme va nous dire directement quel est le niveau de risque que court cette personne. Les mesures policières et sociales sont ensuite adaptées au niveau de risque. La façon de travailler n'est pas la même en fonction des victimes. C'est l'outil fondamental pour lutter contre les violences conjugales. Bon, on va remplir le document. Les premières questions concernent l'agresseur.
La victime ne dit pas s'il a menacé de se suicider.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où l'agresseur menace souvent la victime et lui dit qu'il va se suicider si elle le quitte. Mais lui, il ne l'a jamais fait. Ensuite, est-ce qu'il a des addictions? Par exemple, drogue ou alcool? Elle a toujours dit que non.
Bon, ça.
Le système fait toujours apparaître le même niveau de risque puisqu'il n'y a eu aucun incident. Il ne s'est absolument rien passé depuis la dernière fois que j'ai évalué le risque qu'elle courait.
Donc ça veut dire quoi concrètement ?
C'est très important de maintenir le même niveau de risque puisque cette personne est introuvable et qu'on n'a pas pu lui notifier l'ordonnance de protection. Vu que l'agresseur est introuvable et que cela implique un risque pour la victime, le niveau de risque reste un peu élevé.
Est-ce qu'il y a déjà eu des failles ? Parce que comme tout outil informatique, j'imagine que parfois il peut y avoir des erreurs.
Oui, oui. Ce programme a déjà subi 4 réformes. L'idée, c'est qu'il soit le plus parfait possible, bien sûr. Et puis, il fonctionne avec les unités de police en charge du suivi des victimes. Et si nous n'introduisons pas d'informations dans le programme, cela ne marche pas, puisqu'il fonctionne sur la base du facteur humain de la police qui suit les victimes de violences conjugales.
Comme Lorenzo, 80 policiers travaillent au siège de la police municipale sur des affaires de violence conjugale. Au total, il existe 380 agents spécialisés répartis dans tous les commissariats de quartier à Madrid. Pour intégrer ces unités spécialisées, les policiers doivent passer un concours et suivre une formation. Et pour Marta Fernandez Ulloa, la chef de l'unité de protection des femmes, cela ne fait pas de doute, la spécialisation des policiers est la clé dans la lutte contre les violences conjugales.
Au-delà de la sensibilisation, on leur apprend à mener un entretien avec la victime. Il faut que l'entretien soit indirect, ne jamais faire des questions concrètes, mais plutôt générales, pour que ce soit elle qui te raconte spontanément. Si je veux savoir si son mari boit beaucoup ou s'il se drogue, je ne vais pas lui demander « Ton mari prend de la drogue ?» Je vais lui demander « Quelles sont les habitudes de ton mari ? Est-ce qu'il a une routine ? Comment ça se passe à la maison ? Comment ça se passe avec les enfants ?» Le but, c'est que ce soit elle qui me le raconte. Nous faisons en sorte de ne pas formuler les questions dans un sens, de ne pas induire des réponses en pensant que telle chose s'est passée, alors qu'en fait, ça n'a peut-être pas eu lieu ou ça s'est produit de façon ponctuelle. On leur apprend à prendre le temps nécessaire. Il ne faut pas faire un entretien à la hâte. Si la victime pleure, il faut la laisser pleurer pour qu'elle prenne son temps. Si dans son récit, elle commence à nous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, mais que soudain, elle se souvient de ce qu'il s'est passé il y a 10 ans, nous la laissons parler et c'est le policier qui va classer les faits en fonction de la date où ils se sont produits. Nous essayons de ne pas minimiser, de ne pas lui dire qu'elle va le surmonter, que ça va être facile, parce que c'est un chemin difficile. Nous essayons de ne pas être paternaliste avec elle. On veut la protéger, mais de façon à ce qu'elle soit forte en elle-même. Ce sont des stratégies psychologiques et des compétences que doivent acquérir les policiers pour bien faire leur travail.
On peut aller voir l'endroit où sont reçus les appels quand les victimes vous contactent directement à la police municipale de Madrid.
Sí, claro.
Assurer la sécurité des victimes, c'est aussi les aider à leur trouver un logement d'urgence pour qu'elles s'éloignent du domicile conjugal. Et le premier interlocuteur de la police, c'est la ville de Madrid, qui a mis à disposition des centres d'hébergement réservés aux femmes victimes de violences conjugales. Ce jour-là, Ivan, un des policiers spécialisés, accompagne une des victimes dont il suit le dossier.
Bonjour, j'appelle depuis l'unité de protection des femmes de la police municipale. Voilà, je suis référent d'une femme qui court un risque élevé. J'étais avec elle hier au tribunal, ils lui ont délivré une ordonnance de protection. Du coup, je voudrais demander un logement d'urgence pour elle. J'imagine qu'elle pourrait y aller aujourd'hui. Elle a une petite fille de 2 ans, là elle est dans la maison de l'un de ses proches. Je vais l'appeler maintenant. Bon, je vais devoir l'appeler plus tard parce que là, elle ne répond pas. Elle a été évaluée risque élevé. Donc, si dans un délai raisonnable, dans quelques heures, elle ne répond toujours pas, il faudra que j'aille voir ce qui se passe.
Le policier tente à nouveau de joindre la victime. Cette fois, elle décroche. Evan s'assure d'abord qu'elle est en sécurité et il lui demande si son ex-conjoint a essayé d'entrer en communication avec elle. Puis il lui explique la procédure pour être accueilli dans un hébergement d'urgence. Il la prévient, ça n'est pas sûr qu'elle ait une place. Il y a beaucoup de demandes. La décision ne dépend pas de la police, mais bien du centre d'hébergement municipal. Ivan prend ensuite contact avec l'agresseur.
Bonjour, je cherche à joindre Yon. C'est la police. Je t'appelle parce qu'hier, tu étais au tribunal et ils ont délivré une ordonnance de protection par rapport à Christina. C'est bien ça? Ton avocat t'a expliqué comment ça fonctionne? Tu ne peux pas t'approcher d'elle ni l'appeler. Rien jusqu'au jugement. Je t'appelle aussi pour t'informer que Christina bénéficie d'un service de protection policière tant que la mesure est en vigueur. Tu dois la respecter et on veillera à ce que tu le fasses. Voilà, c'est pour que tu sois au courant, d'accord? Si tout va bien, le jugement se déroulera normalement. Donc, c'est pour ça que je te dis, essaye de respecter ces mesures parce que sinon, c'est un autre délit, d'accord?
El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la iba comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita.
C'est en 2004 que tout a changé en Espagne. Cette année-là, le Parti Socialiste arrive au pouvoir et 8 mois après les élections, le chef de gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero, s'attaque aux violences conjugales. La loi de protection intégrale contre les violences de genre est votée à l'unanimité des députés espagnols. La société est en fait sensibilisée sur ces questions, notamment depuis une affaire de féminicide à la fin des années 90.
Marisa Soleto Avila, vous êtes la directrice de la Fondation pour les femmes. Je voulais vous montrer une vidéo qui va sûrement vous parler. Il s'agit du...
Ana Orantes.
C'est la vidéo en fait d'un cas de féminicide qui est très connu en Espagne. Ana Orantes, une mère de famille, qui donc là passe à la télévision, un canal, une chaîne... connue en Espagne et qui dénonce les violences conjugales qu'elle subit à son domicile. Et une dizaine de jours après, elle est assassinée par son mari. Elle est brûlée vive devant l'un de ses enfants, je crois. Et c'est un cas qui est devenu emblématique en Espagne.
Il aimait les femmes. Il aimait aussi les petites filles à partir de 8 ans. Moi, j'ai une fille de 14 ans. Un jour, elle m'a dit « Maman, tu ne te rends pas compte, mais quand on s'assoit autour de la table pour manger, il passe sa main sous la table et me touche la cuisse. » Je lui ai demandé « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Elle m'a répondu « Parce que je sais qu'il va te frapper. Je sais que puisque je te le dis, tu vas lui dire et il va te frapper. » J'avais 11 enfants, nulle part où aller, donc je n'avais qu'à supporter tous les coups qu'il me donnait, coup sur coup. Il y avait des jours avec, des jours sans, et d'autres avec un peu moins de coups.
Cette femme, ce qu'elle raconte à la télé, c'est la situation vécue par des milliers d'autres. Ana Orantes avait porté plainte à de nombreuses reprises contre son conjoint. Après avoir dénoncé les sévices qu'elle subissait, elle avait fini par obtenir le divorce. Mais comme il n'avait qu'une maison pour vivre, aucune mesure de protection n'a été prise à son encontre. Contre quand elle a divorcé. Le juge a décidé qu'elle vivrait au premier étage et son mari au rez-de-chaussée. Donc forcément, les sévices ont continué. L'histoire que raconte Ana Orantes, c'est l'histoire de sa vie, d'une femme battue à plusieurs reprises devant ses enfants pendant toutes les années où elle a été mariée. Quand elle a voulu divorcer, la réponse de la justice, cela a été de rester vivre avec l'homme qui la maltraitait. Quand elle raconte ça à la télévision, tout le pays est scandalisé. Mais ce qui nous a le plus choqué, c'est que l'impunité ait permis à ce monsieur de tuer sa femme en la brûlant vive quelques jours après son passage à la télévision. Les faits se sont produits en 1997, à l'époque où les premières mesures étaient évoquées au niveau international pour lutter contre les violences conjugales. Il y a eu un avant et un après avec cette affaire. On se rend compte à ce moment-là à quel point la justice et ce que contient le code pénal ne sont pas suffisants pour protéger la vie des femmes quand elles sont victimes de violences conjugales. Je crois que la réaction de la population à ce moment-là a été de se dire « ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que des femmes soient en danger de mort et que la justice n'ait pas de réponse à leur apporter ». Et à partir de là, grâce au travail de nombreuses associations féministes qui travaillaient déjà sur ces questions de violences conjugales et des associations de juristes, on commence à faire le point sur la situation réelle dans les tribunaux. Il y avait des femmes à qui on disait « oui, vous êtes en danger, on va délivrer une ordonnance de protection, il ne pourra pas s'approcher de vous à moins de 10 mètres ». Et les victimes répondaient « oui, mais alors je vais le voir » et on leur disait « son travail se trouve là, alors bon ». Rien dans le cadre de la justice espagnole ne prévoyait vraiment ce que signifiait protéger une femme. À partir de là, le gouvernement conservateur à l'époque met quand même en place un instrument très efficace qui s'appelle l'ordonnance de protection. Pour toutes les femmes qui se rendaient au tribunal, le juge avait désormais à sa disposition une série de mesures de protection pour que ce qui est arrivé à Ana Orantes n'arrive plus. C'était en 2002-2003, un premier signe, avant qu'on se dise en 2004, bon, il faut légiférer de façon plus sérieuse. Il faut qu'on ait une loi spécifique. Il faut qu'il y ait des moyens publics pour recevoir les victimes de violences conjugales et il faut qu'on revoie le système judiciaire de façon générale. Vu le chemin parcouru, les femmes maltraitées en Espagne doivent beaucoup à la mémoire d'Ana Orantes parce que la tragédie qu'elle a vécue, ça a été le coup dont avaient besoin la justice et les pouvoirs publics espagnols pour se rendre compte que ce qui se passait, ça ne pouvait plus arriver.
Une fois que les victimes ont déposé plainte, les tribunaux espagnols ont jusqu'à 72 heures pour décider de mettre en place des mesures pour protéger la victime contre son agresseur présumé. Et ce type de décision, eh bien, ils sont décidés en fait dans des tribunaux spécialisés en violences faites aux femmes. Là, je me trouve devant ce tribunal à Madrid, un grand bâtiment moderne avec de larges fenêtres qui donnent sur une rue passante. Ce matin, il y a pas mal d'effervescence, d'allées et venues à l'intérieur du bâtiment puisque la plupart de ces affaires de violence conjugale eh bien, sont jugées le matin jusqu'en début d'après-midi.
Vous comparaissez aujourd'hui pour demander une ordonnance de protection. L'homme contre lequel vous avez porté plainte, c'était votre conjoint ou votre mari ?
C'était mon conjoint.
Vous voulez qu'il soit jugé et condamné pénalement pour les faits qu'il a commis ?
Non.
La veille de votre plainte, donc le 3 novembre, que s'est-il passé ?
Il a commencé par me demander si j'étais avec quelqu'un d'autre, pourquoi je ne voulais plus être avec lui. Moi, j'avais ma fille devant les bras. Donc j'ai commencé à aller dans son sens, à dire que ça allait, mais qu'il fallait qu'il se taise. C'est à ce moment-là qu'il s'est arrêté et qu'il m'a frappée. Il m'a donné des coups de poing, j'ai commencé à avoir peur parce qu'il y avait beaucoup de sang qui sortait de mon nez. J'avais un œil qui coulait beaucoup, à tel point que j'avais l'impression qu'il saignait.
La victime sort par une porte de la salle d'audience. La jeune femme de 20 ans a un énorme bleu sous la pommette gauche. L'agresseur entre ensuite par une autre porte, menottée et entourée de policiers. À aucun moment, lors de l'audience, ils ne vont se croiser.
Vous l'avez déjà agressé auparavant ?
Non.
Vous ne l'avez jamais frappé, à tel point qu'elle s'est urinée dessus de peur ? Et vous lui avez dit « tu es une chienne, tu te pisses dessus comme les chiens ?»
Non.
Cette fois, vous êtes arrivé chez elle ivre, vous vous êtes disputé, vous lui avez donné plusieurs coups de poing sur la pommette gauche, dans le nez, dans la tête et sur les bras.
Oui, je lui ai donné deux gifles. Le coup est parti, j'ai perdu le contrôle, je ne me rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé, je me rappelle juste lui avoir donné deux gifles.
Je vais donc délivrer l'ordonnance de protection parce que les faits délictueux sont évidents. C'est pourquoi j'accorde des mesures de protection aussi bien pénales que civiles.
L'ordonnance de protection est l'une des clés de réussite du modèle espagnol dans la lutte contre les violences conjugales. L'année dernière, les juges en ont délivré 27 000. Autre mesure phare du système, le bracelet anti-rapprochement porté par les conjoints ou ex-conjoints violents. 1353 femmes sont aujourd'hui protégées par ce dispositif en Espagne.
Je me dirige vers le domicile d'Antonia. Elle s'appelle Antonia, mais en fait tout le monde ici l'appelle Tony, elle n'aime pas son prénom. Et Tony, c'est une victime de violences conjugales, mais elle n'aime pas non plus qu'on dise victime. Elle se dit survivante. Elle est désormais protégée par le dispositif du bracelet électronique que porte son ex-conjoint jusqu'en 2022.
Je revenais du travail, il faisait nuit. Il m'a poussé de force à l'intérieur du hall d'immeuble et il voulait me faire monter sur le toit. Je me suis accrochée à une colonne près de l'ascenseur, donc il n'a pas réussi à le faire. J'ai réussi à m'échapper en courant. Il me disait que je devais aller en haut, je ne sais pas ce qu'il voulait me faire. À ce moment-là, tu ne réfléchis pas. Je ne pensais pas pouvoir raconter un jour ce qui s'est passé ce soir-là. Donc ça, c'était en 2015. J'ai porté plainte parce qu'il m'avait agressée, mais j'ai ensuite retiré la plainte cette année-là, parce qu'il me faisait de la peine. En 2016, j'allais au travail en voiture avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais selon lui, j'avais regardé un homme. Bon, okay. Il arrête la voiture et il me frappe. J'avais la bouche en sang. Là, j'ai eu peur. Je voyais beaucoup de sang, je pensais qu'il allait me faire quelque chose de pire. Il m'a enfermé dans la voiture, je ne pouvais pas sortir. Il m'a emmené sur un terrain vague. J'avais l'impression que je n'allais pas réussir à m'échapper. Et finalement, j'ai réussi. J'ai réussi à m'échapper en courant. J'ai appelé à l'aide. Je suis allée au commissariat porter plainte. C'est à ce moment-là que j'ai commencé la procédure. Il a été condamné. Il est resté environ 4 mois en prison et il en est sorti. Après, il est allé dans un centre psychiatrique où il se trouve encore aujourd'hui. Moi, depuis, j'ai un dispositif de sécurité parce que lorsqu'il est sorti de prison, il continuait à me déranger. Donc ils m'ont donné ce dispositif pour me protéger. C'est une sorte de téléphone.
Donc là, c'est le dispositif en fait que vous avez toujours avec vous et qui est relié au bracelet électronique que porte votre ex-conjoint. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça marche, ce dispositif ? Donc là, il est juste en face de nous. C'est un boîtier noir qui a peut-être la forme un peu d'un téléphone portable avec un écran et 4 touches directionnelles et une touche au milieu. Donc comment il fonctionne ?
Sí, mira, yo por ejemplo... Si elle est cerca, vale.
Regarde, imaginons qu'il soit près de moi. Ici apparaît un petit cercle avec un message en rouge, agresseur proche. C'est connecté à un centre qui s'appelle Cometa et qui prévient la police. À ce moment-là, il m'appelle et me demande comment je vais, si je suis chez moi, si je suis accompagnée. Avec ce téléphone, je me sens protégée parce que j'ai toujours peur. J'ai mes habitudes maintenant. Le matin, je le laisse ici chargé ou dans l'entrée. Je prends le téléphone, mon sac et je sors me promener. Je fais toujours comme ça. Et quand je rentre, je le remets à charger. C'est devenu une routine, quelque chose que je fais tous les jours pour ne pas que je l'oublie. Mais je ne l'ai jamais oublié, parce que je suis consciente du risque que je courais et que je cours toujours. Je dois toujours sortir de chez moi avec. Si je n'avais pas le dispositif, j'aurais toujours peur dans la rue. Je ne l'oublie pas.
Una vez más, no por favor, que estoy cansadita y no puedo con el corazón. Una vez más, no mi amor, por favor, no grite, que los niños duermen.
Je suis dans un centre pour paraplégiques à Madrid et c'est ici que vit Wafa, une femme victime de violences conjugales.
Son ex-mari lui a tiré dessus dans la colonne vertébrale et depuis elle est en fauteuil roulant.
Je m'appelle Wafa, j'ai 32 ans. Et nous sommes ici dans le centre qui traite les lésions de la moelle épinière, dans le quartier de Vallecas, à Madrid. C'est ici que je vis.
En quelle année avez-vous été victime de violences conjugales et qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre ex-conjoint ?
C'est arrivé le 23 octobre 2014. Ce qui s'est passé, c'est que mon ex-conjoint, même s'il était sous le coup d'une mesure d'éloignement, s'est approché de moi alors que je sortais de la salle de gym. Il m'a attrapé et on s'est disputé. Enfin, ça, c'est ce qu'on m'a raconté après, parce que moi, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Après la dispute, il voulait que je vienne avec lui, mais moi je ne voulais pas. Donc il a sorti son pistolet et il m'a tiré dessus, dans le dos. J'ai été blessée à la moelle épinière. Je ne peux plus bouger. Je suis paralysée du cou jusqu'en bas du corps. Après m'avoir tiré dessus, il est monté dans la voiture que j'avais à ce moment-là. Et il s'est enfui. Ensuite, je ne sais pas si c'est à cause des remords ou ce qui a bien pu lui passer par la tête, mais il s'est arrêté et il s'est suicidé. Je ne sais pas si c'était quelques heures ou quelques minutes après.
Selon vous, qu'est-ce qui aurait pu vous permettre d'être mieux protégé face à votre agresseur ?
C'est très important que les mesures d'éloignement existent. Mais en même temps, je pense que d'autres mesures de sécurité devraient être prises en fonction de chaque cas. En plus d'un suivi de la victime, on devrait également suivre l'agresseur. Moi, par exemple, les services m'ont appelé régulièrement pour me demander où je me trouvais, où j'habitais, etc.
On m'avait aussi donné un dispositif de la Croix-Rouge pour appeler. C'est comme un téléphone avec un GPS pour savoir où je me trouvais. En cas d'urgence, je pouvais les appeler. Mais le temps que je les appelle, il peut déjà m'avoir tué ou m'avoir fait n'importe quelle autre chose. Si tu te trouves face à lui, tu ne peux pas prendre comme ça ton téléphone. Il ne va pas te laisser faire. Cette méthode, moi, ne m'a pas servi, parce que je n'ai pas eu le temps. C'est pour ça que je dis que pour chaque cas, il faudrait qu'il y ait, et j'insiste là-dessus, un suivi de l'agresseur. En ce qui me concerne, je me demande, ce pistolet, il l'a trouvé où ? Je ne l'avais jamais vu. S'il avait bénéficié d'un suivi, bon, peut-être que ça n'aurait pas permis d'éviter ce qui s'est passé. Mais quand même, ce pistolet, il l'a sorti d'où ? C'est lui qui aurait dû être suivi, pas moi.
Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, yo voy a quemar todo tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, yo voy a
La chanteuse espagnole Bébé interprète Malo, chanson qui dénonce les violences faites aux femmes. Contre les violences conjugales, l'Espagne à l'avant-garde. Un reportage de Maïwenn Bordron avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invitée de grand reportage, Françoise Brier, directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes, et Isabelle Rome, haute fonctionnaire au ministère de la Justice, coordinatrice de la lutte contre les violences conjugales. Alors vous venez d'entendre ce dernier témoignage, celui de Wafa. Elle dit « c'est lui qui aurait dû être suivi. En 2018, en France, dans plus de 3 féminicides sur 10, c'est par arme à feu que les femmes ont été tuées. Dans les recommandations des groupes du travail du Grenelle, il y a cette proposition, je crois Isabelle Rome, de réquisition des armes à feu des conjoints visés par des plaintes. Ça oui. pourrait permettre d'éviter des drames ?
Oui, tout à fait, de pouvoir permettre dès l'ouverture de l'enquête aux officiers de police judiciaire de saisir les armes qui sont soit sur la personne même du mis en cause, soit son domicile, est déjà une manière d'éviter un risque de renouvellement de l'infraction, bien sûr.
Et on parle bien donc d'une action avant même qu'il y ait eu un jugement.
Bien sûr, oui, oui, dès l'ouverture de l'enquête.
Donc là, on s'appuie sur des faisceaux, des indices. On estime que...
C'est-à-dire que dans cet esprit-là, nous nous plaçons dans un but de prévention et non pas de répression. Mais la prévention est extrêmement importante dans ce domaine.
Françoise Brier, là je viens de partir sur un point précis, on vient d'entendre là l'ensemble du reportage de Maïwenn Bordron. L'Espagne, pour vous, c'est vraiment un pays inspirant pour la lutte contre les violences conjugales ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que l'Espagne a quelques années d'avance sur la France pour avoir mis en place d'abord l'ordonnance de protection, puis les téléphones, ce qui existe aujourd'hui, hein, qui sont les téléphones grave danger, les bracelets électroniques, et surtout, je pense, la prise en compte avec cette loi intégrale, c'est-à-dire qui prend en compte à la fois la question, les questions techniques, je dirais, de sécurité, de danger des femmes, et aussi les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes, et qui traverse un petit peu toutes les décisions et tout le parcours des femmes. Et je pense que ça, c'est un point important pour comprendre aussi parfois certaines représentations par les professionnels et déconstruire. C'est pour ça que la spécialisation dans toute la chaîne est essentielle, à la fois parce que les questions de sécurité et de complexité des situations le nécessitent, mais aussi parce que chaque professionnel qui est formé doit aussi réfléchir à ses propres représentations sexistes, justement pour éviter des victimisations secondaires et mettre la victime au cœur de tous les dispositifs.
Maïwenn Bordron.
Françoise Brier, vous parliez des ordonnances de protection, donc je me tourne peut-être plus vers Isabelle Rome. Comment expliquer qu'aujourd'hui en France, le nombre d'ordonnances de protection qui sont délivrées par les juges soit si peu nombreux? On est à 1600 ordonnances de protection prises l'année dernière contre 27 000 en Espagne. La différence est énorme. Comment elle peut s'expliquer?
Alors déjà, parce qu'elles sont peu demandées, hein, puisqu'il y a à peu près 3 000 demandes d'ordonnances de protection et 1600 donc ordonnances de prononcer, ce qui fait à peu près un taux d'acceptation de 60%.
Mais donc peu demandées parce qu'on connaît
alors,
pas
justement,
assez le dispositif.
Si je précise ce chiffre au préalable, c'est quand même important de le rappeler. Ça veut dire que ce dispositif est vraiment trop mal connu. Il date dans notre système de 2010, mais néanmoins, il reste vraiment méconnu. C'est-à-dire qu'il faut aussi sensibiliser les barreaux, les associations, afin qu'elles orientent davantage les victimes vers ce dispositif. Et je me permets vraiment d'insister sur l'efficacité et l'utilité d'un tel dispositif, qui permet une protection de la victime, mais aussi l'organisation de la vie familiale. La plainte au pénal peut permettre l'éloignement de la victime et de l'auteur des faits, mais ne règle rien sur le plan de la famille. Alors que, à travers une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales pourra attribuer le domicile conjugal, organiser un droit de visite et d'hébergement, éventuellement fixer une pension alimentaire. Et c'est très important puisque on sait aussi que beaucoup de faits de violence conjugale sont commis lors de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement. Et puis aussi, on sait que les enfants sont exposés aux violences conjugales. Donc, vraiment, il est important de sensibiliser sur l'ordonnance de protection. Et c'est ce que le ministère de la Justice fait en renforçant les formations des magistrats, mais aussi en souhaitant ouvrir ces formations à d'autres intervenants, barreaux, OPJ, associations, pour que ce dispositif soit bien connu de tous. Voilà.
Alors, formation par rapport à ce dispositif, mais formation aussi beaucoup plus largement par rapport à toute la connaissance des violences faites
alors,
aux femmes.
Depuis l'école de la magistrature, depuis des années, bien sûr, a intégré un volet violence conjugale dans ses formations. Mais là, depuis un an, vraiment, nous avons renforcé ce travail et avec deux axes, vraiment. Le premier axe sur la formation continue. La formation continue qui est obligatoire pour les magistrats. Et donc avec l'école de la magistrature, nous avons mis en place une journée de formation continue type, hein, qui va être lancée d'ailleurs le 28 novembre à Aix-en-Provence, afin que tous les participants à ces formations, et comme je vous le disais, nous voulons les ouvrir à d'autres professionnels, repartent le soir en sachant ce que c'est que le phénomène d'emprise qui paralyse les femmes et les enferme et les rend complètement dépendantes de ce conjoint violent, en sachant aussi ce que c'est que le psychotraumatisme, et puis ensuite de manière plus spécialisée justement selon les stades de la procédure, des fiches réflexes au niveau de l'enquête, au niveau de comment tenir une audience correctionnelle justement quand on a des violences conjugales, le problème de l'exécution des peines et du suivi de la détention, le problème bien sûr de la prise en charge des enfants, donc à côté l'aspect juge des enfants. Donc ça c'est vraiment le premier aspect. Et le deuxième aspect qui est quelque chose d'une grande, qui est une grande avancée, c'est que lorsque les magistrats changent de fonction, ils doivent avoir une formation obligatoire. Et dans chaque formation obligatoire au changement de fonction est intégré en fait depuis septembre un volet lutte contre les violences conjugales. Parce qu'il est important aussi que même le magistrat qui fait du financier, s'il est de permanence un week-end au pénal, eh bien, il sache aussi ce qu'est l'emprise, ce qu'est le psychotraumatisme avant de prendre sa décision.
Et qui ne passe pas à côté. Alors, la formation, elle est aussi essentielle, et on l'entend dans le reportage, pour les policiers, Françoise Brié. Aujourd'hui, on voit que c'est encore assez difficile d'assurer un bon accueil des plaintes en France.
Oui, je pense qu'on a, enfin nous, on avait
malgré
mené
des progrès.
Oui, il y a des progrès. C'est vrai qu'il y a des endroits où effectivement les services de police et de gendarmerie, voilà, prennent les plaintes d'une façon très correcte. Mais c'est vrai qu'il y a trop de disparités, que nous avons des remontées, y compris sur la ligne d'écoute nationale et dans les associations de notre réseau, soit de refus de plainte, soit de prise de main courante, soit de femmes qui ne peuvent pas être reçues. Et c'est vrai que nous avions fait une enquête il y a 2 ans qui montrait, par exemple, que le week-end et la nuit, c'était un problème majeur, que la question des certificats médicaux était trop souvent demandée pour le dépôt de plainte. Alors évidemment, derrière, il y a la question de la suite de la procédure judiciaire, mais voilà, faut savoir que c'est pas une obligation. Voilà, la question des violences psychologiques aussi, qui est très difficile à aborder, et puis la question aussi justement de voilà, je reviens aussi à ces référents violences qui existent normalement dans tous les commissariats et services de police et de gendarmerie, mais qui sont pas forcément, je dirais, eux-mêmes motivés, en tous les cas, qui décident eux-mêmes de devenir référents, et puis surtout insuffisamment nombreux. C'est pour ça qu'il faut des pôles de plusieurs référents qui soient disponibles pour faire les enquêtes. C'est-à-dire dès qu'une femme dépose plainte, déjà qu'effectivement il y a une formation de base pour celui qui va prendre la plainte, et si possible que cette plainte soit prise par un référent violence, avec une trame de plainte, avec le temps nécessaire, et qui est derrière une enquête, une vraie enquête. Puis je voudrais revenir sur l'ordonnance de protection. C'est vrai que c'est un dispositif méconnu, mais c'est vrai qu'il y a aussi des freins. Il y a aussi des freins parce que parfois on voit que certaines avocates ne veulent pas faciliter les ordonnances de protection. Pourquoi ? Parce qu'ils savent aussi que derrière, il n'y aura pas forcément une réponse au niveau de la juridiction. Donc c'est aussi compliqué.
Pourquoi il n'y aurait pas de réponse ? Par manque de moyens ?
Parce qu'il peut y avoir aussi justement une méconnaissance. Parfois, il y a des exigences aussi et des freins de la part des magistrats. C'est vrai que l'esprit de la loi, c'était d'observer la situation et de prendre des mesures préventives. Or, on demande très souvent dans l'ordonnance de protection un dépôt de plainte. Alors évidemment, il faut quelques éléments de preuve, mais il y a beaucoup trop d'éléments qui sont demandés pour que les ordonnances de protection aboutissent. Du coup, finalement, elles ne sont pas demandées non plus. Et donc là, je pense que l'importance aussi de l'articulation entre les professionnels, quand vous avez un protocole dans un département avec une convention qui associe tous les acteurs et actrices autour de la table et qui font des bilans avec justement les juges aux affaires familiales, les associations sur ces questions-là, et qu'on mesure aussi et en quantitatif et qualitatif les ordonnances de protection, on voit bien où sont les failles, et quand il y en a très peu, on peut aussi se poser des questions.
Et parmi les professionnels confrontés aux violences conjugales, il y a les médecins, Isabelle Rome. Il y a un débat aujourd'hui sur la question du secret médical.
Oui, alors comme vous le savez, le ministère de la Justice et la garde des Sceaux en personne, puisqu'elle l'a indiqué lors de ses interviews, souhaite que...
Une levée de ce secret alors, dans certains cas.
Il faut être bien précis. Hein, voilà. C'est-à-dire que nous ne voulons pas bousculer complètement les choses, mais nous voulons simplement permettre, offrir, voilà, nous ne voulons pas obliger ni contraindre, nous voulons permettre, offrir aux médecins, aux soignants qui constatent des violences conjugales, enfin donc sur une victime, nous voulons lui permettre donc de révéler ces faits au procureur sans l'accord de la victime. Actuellement, les dérogations possibles au secret médical concernent seulement les cas de victimes mineures ou vulnérables. Nous ne souhaitons pas assimiler les victimes de violences conjugales à des personnes vulnérables. C'est pourquoi nous proposons d'autres hypothèses. Par exemple, si le soignant estime, c'est lui qui juge, hein, c'est lui qui lui laisse son libre arbitre total. S'il estime qu'il y a des risques sérieux de renouvellement des faits, eh bien, il peut révéler ces faits au procureur. Et je précise que on ne part pas de rien. Moi-même, j'ai été présidente de cour d'assises pendant plusieurs années, et ce n'est pas rare, ce n'est pas rare les dossiers. C'est pour ça que je porte ce débat avec vigueur et j'ose le dire, parce que ce n'est pas rare les dossiers dans lesquels j'ai vu 3, 4, 5 certificats médicaux, rien, et ça se termine par un coup de feu ou un coup de poignard. Donc je sais pourquoi je porte ce débat. L'inspection générale vient de rendre un rapport dont vous avez entendu parler dans les dossiers, les 88 dossiers qui ont été examinés par l'inspection générale. Il y en a au moins 6 dans lesquels justement il y avait eu des rendez-vous médicaux, des certificats. Je ne veux pas tout expliquer et tout détailler, mais on voit quand même que il faut inciter quand même au signalement. Voilà. Et je pense aussi que si on veut changer de braquet, si on veut changer les choses, il faut que chaque intervenant, chaque profession accepte aussi un peu de remettre en cause ces pratiques. Et je pense que les magistrats, la justice a commencé ce travail. Et si aujourd'hui vous avez tous ces éléments, tous ces chiffres qui sont donnés, c'est parce que Nicole Belloubet a eu le courage de faire cette inspection générale, c'est parce que nous avons depuis un an mené ce travail sur les formations, mené ce travail sur les juridictions pilotes pour essayer d'avoir des filières de l'urgence qui intègrent aussi une qualité de service rendu, parce que c'est bien beau d'être dans l'urgence, mais encore faut-il quand même que le travail soit bien fait. C'est ce que nous essayons de faire humblement, mais avec la plus grande des déterminations.
Alors, dans l'exemple espagnol qu'on vient d'entendre, on entend le travail des policiers, notamment, qui cherchent à chaque fois à évaluer les risques. Françoise Brier, il y a des moments particulièrement risqués dans la relation, notamment au moment en cas de séparation. Finalement, ça doit être aussi un moment d'alerte.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Quand il y a déjà eu des violences.
Tout à fait. Je pense que la question de l'évaluation du risque et de la gestion du risque, parce qu'après l'évaluation, il faut le gérer, c'est très important. Et c'est vrai qu'on a travaillé dans le cadre des groupes de travail sur une grille d'évaluation du risque que nous avions, nous, déjà mis en place pour des raisons de mise en sécurité par éloignement géographique. Donc, c'est vrai que notre réseau éloigne des femmes avec une grille d'évaluation du risque et que les questions de danger doivent absolument être évaluées à tout moment du parcours des femmes. Parce qu'une femme peut être très bien en danger à un moment donné, alors qu'elle ne l'était pas 6 mois auparavant. Donc ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir des antennes et il faut penser la dangerosité des auteurs en permanence. Parce que ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on pense à un moment donné, finalement, que les violences n'ont pas été si graves que ça. Et donc, alors, on sait très bien que quelques jours après, si on n'a pas vraiment fait une bonne enquête, qu'il peut y avoir des passages à l'acte très graves. Donc, effectivement, la séparation est une période à risque. Les maltraitances directes sur les enfants sont aussi un facteur de risque dans les violences conjugales. Les violences très graves, évidemment. Le fait qu'il y ait un facteur aggravant d'être en situation de précarité économique ou femmes étrangères et donc avec moins d'accès aux droits. Et donc on a, par exemple, ou des femmes qui ont été victimes de mariage forcé et qui en sus sont victimes de violences conjugales. Donc cette grille d'évaluation du risque, elle s'intéresse en tous les cas aux victimes, évidemment, au fait qu'elles peuvent être très isolées ou sous emprise ou dans une situation de traumatisme important. La question des auteurs, c'est-à-dire est-ce que cet auteur respecte les décisions judiciaires, est-ce qu'il a déjà des antécédents, par exemple. Et puis la question de l'environnement, vous l'avez dit, c'est-à-dire la séparation, une audience particulière. Voilà, il y a des éléments, bon, je ne vais pas tout détailler, mais c'est vrai que on peut avoir quand même une évaluation du risque. Et derrière cette évaluation, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère cette situation de danger? Et là, j'en reviens à la question du signalement, c'est-à-dire que la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe a cet article qui, effectivement, demande aux États de favoriser le signalement sans obligation, bien sûr, et évidemment, si possible, avec le consentement de la victime, ce qui est extrêmement important, parce que si la victime n'est pas partie prenante à ce signalement, elle ne va pas pouvoir non plus participer elle-même à sa à la sécurisation de sa situation. Mais dans quelques situations, et on peut être amené effectivement à faire des signalements en avertissant bien entendu la victime, et ça doit rester exceptionnel. Et derrière, il faut gérer cette situation. C'est-à-dire, est-ce qu'on la met en centre d'hébergement immédiatement? Est-ce que après le dépôt de plainte, monsieur va être en garde à vue et déféré immédiatement au parquet? Qu'est-ce que va donner l'enquête? Comment on va protéger madame le temps de l'enquête? Enfin voilà, il y a des questions qui se posent. Et là, l'articulation, toujours pareil, entre les professionnels,
c'est compliqué.
Et il faut des protocoles de gestion des risques importants qui permettent d'accompagner cette femme avec elle dans la sécurité. Parce que la sécurité des femmes, on doit la penser avec les femmes. Elles sont partie prenante, on ne peut pas leur imposer cette sécurisation. Il faut évidemment qu'elle soit dans le processus.
Maïwenn Bordron.
Françoise Brié, avec Solidarité Femmes, vous gérez des centres d'hébergement d'urgence. Moi, ce qui m'a surprise à Madrid, c'est ce policier qu'on entend dans le reportage qui prend contact directement avec ces centres d'hébergement d'urgence. Est-ce que ça arrive en France qu'un policier mette en contact la victime et le centre d'hébergement?
Oui, c'est, bien sûr, ça arrive. Nous avons aussi des appels au 3919 de policiers qui appellent aussi parce qu'ils ont une femme qui se trouve au moment du dépôt de plainte et ils cherchent une place d'hébergement. Ça effectivement, c'est une des possibilités. Dans les centres d'hébergement de notre réseau, quand un service de police ou gendarmerie appelle et s'il y a une place et qu'il y a une femme en danger, évidemment qu'on va essayer de s'organiser dans la mesure où il y a évidemment de la disponibilité de place d'hébergement, et ça c'est une autre question. On va évidemment essayer de s'organiser pour l'accueillir. Mais c'est probablement des articulations qu'il faut encore travailler. C'est-à-dire avoir, forcément le lieu où se trouve la place, mais au moins une astreinte avec un responsable de la structure pour pouvoir ensuite organiser l'accueil de cette femme dans cet hébergement.
Alors le policier espagnol qu'on a entendu appelle aussi l'agresseur. Alors il le tutoie, ça c'est la façon
c'est
de faire.
Ça.
Exactement. Mais il fait de la pédagogie vis-à-vis de l'agresseur. Justement, concernant les hommes violents, Isabelle Rome, parce que la violence n'est pas non plus une fatalité, et on voit des hommes qui, en réalité, sont souvent en grande souffrance eux-mêmes. Quel accompagnement pour les sortir de ce système dans lequel ils sont enfermés?
Oui, alors si vous voulez, il y a déjà un certain nombre de pratiques qui sont mises en place par des parquets, que ce soit en matière d'éviction du conjoint violent, c'est-à-dire que par exemple le procureur de Clermont fait ça, dès la première gifle, eh bien éviction du domicile pendant 3 semaines, 4 semaines, hébergement soit dans sa famille, soit dans un foyer, et prise en charge immédiate sur le plan psychologique, accompagnement de la victime pour lui permettre aussi de souffler et puis de savoir ce qu'elle veut faire, ça peut être
accompagnement
ça.
De la victime, mais l'homme lui-même.
Quand j'ai dit prise en charge psychologique, ça veut dire qu'il faut travailler tout de suite sur la violence et sur cet acte, voilà. Parce que donner une gifle à sa femme, ce n'est pas, même si c'est grave, voler un CD, je veux dire, à la FNAC, voilà. Donc il faut interroger cette violence tout de suite, parce qu'effectivement, tous les actes de violence conjugale ne sont pas forcément le fait de manipulateurs, dominateurs, etc. On a 70 000 procédures pénales par an, 130 homicides à peu près. Enfin, voilà. Donc, il faut, je veux dire, heureusement, tous ne sont pas des dominateurs. Et dès la première réponse, certains peuvent s'arrêter. Et il faut penser à ça aussi. Il faut avoir cet espoir-là. Mais pour avoir cet espoir, il faut traiter la violence. Donc, je parle de l'éviction du conjoint violent. On peut aussi parler du suivi renforcé, c'est-à-dire un contrôle judiciaire déclenché tout de suite, avec donc un contrôle strict, mais aussi sur le plan psychologique, Et puis aussi, n'oublions pas la prise en charge des dépendances, puisque dans 54%
il y a de l'addiction des cas, à la drogue, à l'alcool, il y a un contexte. Alors quand aggraver. Je dis
dans 54%, c'est la victime aussi hein, peut être, c'est un contexte, disons, d'alcoolisation. Mais donc, ça veut dire que c'est très présent. Voilà, donc il faut prendre en charge cela. Donc, il y a des bonnes pratiques qui existent. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est justement de passer des bonnes pratiques à la mise en œuvre vraiment d'une politique publique, justement, de lutte contre les violences conjugales à travers le suivi des auteurs, une politique cohérente. Et c'est pourquoi nous souhaitons au ministère de la Justice donc partir de ces bonnes pratiques et entamer un processus type recherche-action pour modéliser des protocoles, mais y intégrer d'emblée un mécanisme d'évaluation, parce qu'une bonne politique publique doit être aussi immédiatement évaluée.
On n'a pas eu le temps malheureusement d'évoquer les enfants pour lesquels il faudrait évidemment une prise en charge encore plus spécifique que ça n'est le cas aujourd'hui. Malheureusement, il est trop tard pour l'évoquer. Merci beaucoup Isabelle Rome et Françoise Brié. Contre les violences conjugales, l'Espagne à l'avant-garde. Le grand reportage de cette semaine était signé Maïwenn Bordron. Réalisation Annie Brou avec Jacques Azubert à la technique. Sans oublier l'équipe de la documentation d'actualité que je remercie. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr et puis en complément du magazine, je vous invite à écouter Des hommes violents, le podcast de Mathieu Palin avec des témoignages d'hommes condamnés pour violences conjugales.